Voilà, enchantée, bonjour à tous. Moi, je suis le docteur Gladys Mikolajczak. Donc, je suis médecin en cours de spécialisation en psychiatrie. Donc, ce n'est pas le docteur Desailly qui vous donnera cours aujourd'hui, mais bien moi, comme vous pouvez le constater. Donc, on sera ensemble pendant une heure, donc de 15h à 16h. Je vous présenterai aujourd'hui la première partie du cours. Et la deuxième partie, je reviendrai pour vous la donner. À mon avis, ce sera aux environs du mois de décembre. Mais le professeur Desailly vous reprécisera ça en son temps. Voilà, donc, deux mots de mon parcours afin que vous puissiez un petit peu comprendre la raison de ma présence aujourd'hui. Donc, moi, je suis en cours de spécialisation de psychiatrie. J'ai travaillé environ 2 ans à l'hôpital de jour universitaire La Clé, à Liège, pour ceux qui y situent. Et depuis peu, je poursuis ma spécialisation à la clinique des frères Alexiens à Henri-Chapelle, donc toujours dans la province de Liège. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous donner le cours de un des cours de psychologie médicale. Donc si j'ai bien compris, vous êtes en troisième bachelier de médecine. Il n'y a pas de pharma, il n'y a pas de dentiste. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui du thème de la déshumanisation dans les soins de santé. Donc est un phénomène assez complexe, mais bien d'actualité. Alors, c'est un sujet très vaste et on pourrait en parler pendant des heures. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous présenter les choses d'une manière intéressante, agréable, attractive, mais surtout digeste. C'est pourquoi j'illustrerai par quelques petites vignettes cliniques mon propos. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Vous pouvez aussi venir me trouver à la fin du cours. Voilà, c'est une première chose. Je pense que les questions qu'il y aura sur le cours seront sous forme de vrai ou faux, mais le professeur Desailly vous précisera tout ça. Mais il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'attrape, ça portera vraiment sur ce que je dis au cours et sur ce qui est exposé dans les bilans. Voilà. Donc, si vous êtes en troisième bachelier, je pense qu'à Namur, vous n'avez pas encore eu, mais vous allez bientôt avoir le stage hospitalier bientôt. Donc voilà, ce que je vais vous exposer aujourd'hui fait référence évidemment peut-être un peu mieux à ceux qui ont déjà eu le stage, mais pour vous ce sera alors un avant-goût puisque vous n'avez pas encore eu, mais il y a moyen en tout cas de vous l'imaginer, ce sera plutôt une petite préparation alors, au moment où vous aurez les stages. Donc, en guise d'introduction, je vais vous lire, et non pas vous montrer la vidéo, parce que je pense qu'en le lisant, le message passe de la même manière, un court extrait de la description que fait une jeune fille qui arrive en maison de repos, cherchant une place pour accueillir de manière bienveillante une vieille dame souffrant de maladie d'Alzheimer. Et c'est une jeune fille qui raconte un petit peu ce qui se passe quand elle arrive dans cette maison de repos. Voilà. Ensuite, on prendra le temps de savoir comment reconnaître ce phénomène de déshumanisation, comment le reconnaître. On prendra le temps de le définir. On essayera d'aborder quelques pistes de compréhension. Et pour aujourd'hui, on s'arrêtera là. Et dans la seconde partie du cours, on discutera des risques à ce phénomène et de savoir comment y remédier à notre échelle. Et puis on conclura. Donc aujourd'hui, on fera les 4 premiers points ensemble. Alors voilà donc cette petite vignette clinique racontant donc l'histoire de cette jeune fille. Ils ne se rendent pas compte, vous savez. Ils sont vieux, ça ne les dérange pas. J'étais venue pour visiter cet institut, cherchant un endroit pour accueillir humainement une vieille femme souffrant de la maladie d'Alzheimer. Une employée m'a accueillie et m'a menée à une sorte de salon. 3 vieilles femmes étaient recroquevillées sur leur fauteuil d'un air résigné. 3 vieilles femmes sur 3 fauteuils et une chaise roulante. Une chaise roulante vide, à un détail près, 2 prothèses de jambes gisaient à ses pieds, revêtues de bas de laine. Remarquant mon trouble, l'aide-soignante a devancé ma question. « Ne vous inquiétez pas, m'a-t-elle dit, ce n'est que le fauteuil d'une résidente qui est morte il y a 2 jours. » Mon silence sans doute en disait trop. Une fois encore, elle a semblé percevoir une once de reproche dans mon regard. Comme si je trouvais choquant que l'empreinte de la mort soit disposée nonchalamment au milieu de 3 vieilles femmes. Trouvais-je choquant ce vestige d'une femme qui était assise à leur côté sur ces mêmes chaises 3 jours plus tôt? Trouvais-je choquant que leur soit imposée l'évidence « bientôt ce sera votre tour » Trouvais-je choquant que ces 3 femmes soient considérées comme suffisamment amoindries pour ne pas avoir conscience de leur condition, pour ne pas être angoissés par une échéance placée constamment sous leurs yeux, se rappelant à leurs bons souvenirs. Bientôt, ce sera votre tour. Trouvais-je que ces restes posés là n'avaient rien d'anodin? Oui, elle a semblé percevoir une once de reproche dans mon regard, comme si je considérais ces femmes comme dignes d'attention, comme si je les considérais comme dignes, comme si je les considérais. Devinant vaguement mon indignation, elle m'a aimablement rassurée. Ils ne se rendent pas compte, vous savez. Ils sont vieux, ça ne les dérange pas. Alors voilà, ça suscite sans doute des réflexions parmi vous, des envies de réagir. Je vous inviterai peut-être à réagir dans la seconde vignette clinique dont on parlera d'ici peu. Quoi qu'il en soit, cette histoire est romancée, il y a certainement un petit peu d'exagération aussi, des choses qui sont une certaine généralisation. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est une bonne mise en bouche, si je puis dire, pour introduire un petit peu ce phénomène de déshumanisation. Donc, pour la petite référence, la vidéo est sur YouTube. Alors, voilà. On se rend compte que déjà au 1er siècle après Jésus-Christ, des personnes s'étaient questionnées sur ce phénomène de déshumanisation, même s'ils ne portaient peut-être pas ce nom-là à l'époque. Et voilà comment certains en parlaient, en tout cas, en disant... Le corps ne peut pas seulement être considéré comme un objet, comme une chose ou une machine au fonctionnement défectueux qu'il s'agirait de réparer. Le corps est un corps animé. Il n'y a pas de corps sans âme. Ce qui n'a plus d'âme, n'étant plus animé, ne mérite pas le nom de corps, mais de cadavre. Et c'est ce que Honneth appelle le concept de réification, chosification. Donc pour ceux qui ont fait du latin, rei, du latin, la chose. Donc c'est cette manière de se comporter, de traiter quelque part les humains de manière contraire à des principes moraux, de traiter les autres sujets non pas à leur qualité d'être humain, mais comme des objets qui seraient dépourvus de sensibilité, des objets morts ou des choses ou des marchandises. Alors les données de la littérature sont assez interpellantes par rapport à ça parce que des revues de littérature montrent que des études qui se sont attachées à étudier le phénomène d'empathie chez les étudiants en médecine notamment montrent que étonnamment l'empathie diminuerait au fur et à mesure des études de médecine, donc ce qui est peut-être un petit peu étonnant, et les études montrent que cette empathie diminuerait à partir du moment où un contact direct a lieu avec le patient, donc à partir des premiers stages justement. Et donc, des personnes qui se sont intéressées un petit peu à ce phénomène se sont demandé pourquoi. Et c'est ça qu'on va essayer d'un petit peu, c'est ce à quoi on va essayer de réfléchir un petit peu aujourd'hui. Alors, comment reconnaître ce phénomène? Martha Nussbaum, qui a réfléchi au sujet, avance les 7 points suivants, qui sont les 7 manières de traiter une personne comme une chose. Donc, il y aurait l'instrumentalisation, le déni de l'autonomie, l'inertie, la fongibilité, la violabilité, la propriété et le déni de la subjectivité. Donc je vais reprendre chaque point un par un pour vous expliquer en quelques mots ce que c'est, et puis en faisant un parallèle avec la petite histoire clinique que je viens de raconter, comme ça sera plus parlant. Donc qu'est-ce que c'est l'instrumentalisation? C'est le fait que quelqu'un qui instrumentalise l'autre, qui objectifie l'autre, le traite comme un moyen ou un outil au service de son propre projet, mais sans considérer le désir de l'autre. Donc voilà, c'est par exemple dans la vignette clinique quand elle raconte que ces 3 vieilles dames sont quelque part comme englouties parmi d'autres choses. Donc on n'a pas l'impression qu'elle les considère vraiment comme des personnes humaines. Le déni de l'autonomie, c'est quoi le déni? Donc c'est peut-être le professeur de Saïd vous a parlé déjà des mécanismes de défense. Donc le déni fait partie d'un mécanisme de défense que l'individu met en place quand la réalité est trop difficile à accepter. Ça veut dire qu'il ne veut pas voir ce qui se passe, donc il le dénie, il le nie, il fait comme si ça n'existait pas. Donc le déni de l'autonomie, c'est le fait de ne pas vouloir accepter, de ne pas vouloir reconnaître que les personnes ont une capacité d'autonomie. Donc n'ont pas d'autonomie et n'ont pas non plus d'autodétermination, donc le fait de pouvoir avoir ses propres projets, ses propres désirs. Donc la personne qui pratique le déni de l'autonomie ne considère pas l'autre comme ayant des propres souhaits. Alors, C'est par exemple quand la fille explique que, voilà, est-ce que ces jeunes femmes sont considérées comme amoindries pour ne pas avoir conscience de leurs conditions. Donc, on ne leur reconnaît pas cette capacité. L'inertie, c'est le fait que l'autre n'aurait pas de capacité d'agir, donc pas d'activité, pas de capacité d'agir. Et quelque part, par exemple, quand elle dit, voilà, elles sont entassées à trois dans des chambres froides et étroites, on a l'impression qu'elles sont un peu inertes, elles sont déposées là. La fongibilité, c'est le fait d'être interchangeable avec des objets de même type ou d'autres types. Donc une chose fongible se caractérise par son appartenance à un genre ou à une espèce, mais pas par une identité propre. Donc par exemple, ici, c'est... On pourrait relier ça au fait, quand elle parle, il y a deux prothèses de jambes qui gisent à ses pieds. Ce n'est qu'un fauteuil d'une résidente qui est morte il y a 2 jours. Le vestige d'une femme qui était assise à côté d'elle 3 jours plus tôt. On a l'impression que, entre les personnes humaines et les choses, on ne voit pas trop la différence. On a l'impression que tout est comme ça amalgamé, et donc que la condition humaine de cette femme n'est pas reconnue. La violabilité, c'est le fait que l'autre n'a pas d'intégrité, n'a pas de frontières, qu'on peut forcer l'autre, qu'on peut le traverser, qu'on peut le casser. Donc, on ne reconnaît pas ses capacités d'intégrité à l'autre. Ici, si on veut faire un parallélisme, c'est quand on dit qu'on leur impose quelque part une évidence qui est bientôt, ce sera votre tour. Il y a comme quelque chose où on les force. Maintenant, c'est une interprétation et c'est pas nécessairement parce que ça se passe comme ça dans la maison de repos que c'est ça qui est en train de se passer, mais ça permet en tout cas de faire un parallèle avec ces 7 points. Alors, la propriété, ça c'est peut-être plus facile à comprendre, c'est le fait que l'autre peut appartenir à quelqu'un, peut être cédé à quelqu'un, peut être prêté à quelqu'un, peut être vendu, donc l'autre est dépossédé de lui-même. Et le déni de la subjectivité, encore une fois on parle du déni, donc c'est ne pas reconnaître à l'autre que l'autre a une subjectivité, la subjectivité étant la manière très propre et très singulière, très individuelle dont la personne ressent les choses, dont la personne vit les choses. Donc voilà, la personne qui pratique le déni de la subjectivité ne tient pas compte d'éventuels ressentis chez l'autre, d'éventuels vécus chez l'autre, d'éventuels affects ou états d'âme chez l'autre. Donc c'est quand, par exemple, la fille dit que c'est comme si elle n'avait pas conscience de leurs conditions. On ne reconnaît pas, en tout cas, qu'elle puisse avoir un vécu propre. Voilà. Alors, comment définir le phénomène de déshumanisation? Il y a 2 courants de recherche. Ce sont 2 courants différents, donc il ne faut pas essayer de les réconcilier. Il ne faut pas essayer de les mettre ensemble. Il y a un premier courant qui dit c'est soit la négation des traits exclusivement humains ou des traits typiques à la nature humaine. Je vais y revenir dans 2 minutes. Ça, c'est le premier courant qui est illustré par le schéma. Je vais y revenir. Et le deuxième courant, sur lequel j'insiste un petit peu plus, c'est le courant qui dit c'est la négation des émotions uniquement humaines, ce qu'on appelle le courant de l'infra-humanisation, et qui est illustré notamment par l'étude de Weiss et Muratore, dont je vais parler dans 2 minutes. Donc ça, c'est les 2 courants qui essaye de définir actuellement la déshumanisation. Donc, le premier courant, il dit, déshumaniser quelqu'un, c'est nier, donc c'est ne pas reconnaître à l'individu d'être exclusivement humain, qui serait la raison, la logique, le savoir-vivre. Donc, si on essaye de différencier l'humain d'un animal, on considère que, jusqu'à preuve du contraire, l'animal n'a pas vraiment ces capacités-là. Et donc, si on retire ça à l'être humain, c'est comme si on le traitait comme un animal. Donc ce serait le concept de déshumanisation animalistique, donc c'est ce qui est un petit peu résumé là dans le schéma, où au-dessus on voit la déshumanisation animalistique, et en dessous ce serait plutôt la déshumanisation mécanistique, donc c'est qu'on retire des traits typiques là à la nature humaine, donc tout ce qui est chaleur interpersonnelle, etc., donc jusqu'à preuve du contraire, l'objet, la machine, une chose ne sait pas, n'a pas ses caractéristiques là. Ça, c'est un petit peu le premier courant de recherche. Le deuxième courant, c'est le fait de dire, déshumaniser l'autre, c'est retirer à l'humain des émotions uniquement humaines. Et à ce moment-là, on parle d'émotions à un niveau supérieur, donc qui serait l'humiliation, le fait de pouvoir ressentir de l'espoir, la nostalgie, de la honte, du regret, de l'admiration. Donc ce serait infra-humaniser l'autre, ce serait retirer ces capacités-là. Et effectivement, ce serait des capacités qui requièrent des capacités cognitives supérieures, donc ce qu'on appelle capacité de réflexivité sur soi. Et donc, on se dit, en tout cas jusqu'à présent, que les animaux n'ont pas cette capacité-là. Et donc, ce seraient des émotions uniquement humaines. Alors, l'étude de Vaes et Muratore a essayé de mettre un petit peu en évidence ça pour voir finalement qu'est-ce que ça apporte à l'être humain de pouvoir faire ça et en quoi est-ce que pouvoir faire ça, ça peut humaniser finalement la souffrance d'un patient. Donc, ils ont pris une situation fictive où ils ont demandé à un soignant d'inférer, donc de deviner, d'essayer d'imaginer quelles pourraient être les émotions que ressentirait une personne en fin de vie. Donc, souffrant par exemple d'un cancer en phase terminale, ou ce genre de fin de vie. En sélectionnant dans une liste des émotions, et donc la liste comprenait un nombre égal d'émotions uniquement humaines et 50% d'émotions partageables avec les animaux, donc des émotions pas uniquement humaines. Et alors ils ont vu que plus le soignant inférait, donc chez le patient, donc plus le soignant imaginait que le patient ressentait des émotions uniquement humaines, donc plus il cochait dans la liste d'émotions uniquement humaines, plus ça présidait, c'est assez intuitif, hein, sa tendance à humaniser la souffrance de la personne, mais surtout ça prédisait aussi positivement le risque de burn-out chez le soignant. Donc voilà, il y aurait un lien direct entre la capacité à humaniser la souffrance chez le patient et le risque de burn-out chez le soignant. Donc c'est pour ça que ben, c'est bien de pouvoir humaniser la souffrance de l'autre, mais jusqu'à un certain point, et c'est ce qui nous amènera dans la suite de l'exposé à peut-être comprendre pourquoi ça peut parfois être nécessaire de déshumaniser un petit peu la souffrance de certains patients pour ne pas être à risque de burn-out. En tout cas, c'est une piste de compréhension de ce phénomène. Donc, ces deux courants de recherche, comme j'ai dit, c'est deux choses différentes. Donc, on ne va pas essayer de les réconcilier. C'est un aperçu. Et si on devait conclure, ben voilà, on dirait que finalement, déshumaniser l'autre, c'est le dépouiller de deux caractéristiques fondamentales qui sont l'expérience et l'agency, donc ça qui est un concept plus nord-américain, donc l'expérience qui est la capacité qu'a l'humain de ressentir le plaisir, la douleur. Donc si on le dépouille de ça, ben, quelque part on le traite comme une machine, parce que l'animal a la capacité de ressentir le plaisir et la douleur, donc là on arrive carrément au niveau de la machine. Et si on le dépouille de l'agency, donc ça sa capacité à planifier, penser, faire des choix, mais là, quelque part, on le traite plus comme un animal, en tout cas comme une machine, mais bon, si on prend les différents niveaux. Et donc, en tout cas, voilà, ce serait dépouiller l'esprit humain de ces deux caractéristiques. Et donc, le point commun, ce serait ne pas considérer les états mentaux des autres. Alors, avant d'essayer de comprendre les causes à ce phénomène, d'envisager des pistes de compréhension, je vous propose de vous lire une petite histoire clinique. J'aime beaucoup les histoires cliniques, je trouve vraiment que ça permet de beaucoup mieux retenir la matière et de beaucoup mieux la comprendre. Une histoire clinique derrière laquelle se cachent certainement ces causes-là. Et alors, je vous inviterai à réagir éventuellement pour ceux qui le veulent après, si vous voulez. Voilà. Donc ici, il s'agit en fait d'une histoire clinique qui a été imaginée dans le cadre des séminaires GEFERS, qui sont des séminaires qui ont été mis au point par des soignants qui réfléchissaient sur le concept de la banalisation de l'humain dans les systèmes de soins, notamment Michel Dupuis. Et donc, c'est sous forme d'une petite pièce de théâtre en quatre actes. Donc, on ne va pas jouer ici, mais voilà, je vais vous la lire, mais il faut s'imaginer que c'est un petit peu ça l'idée. Donc, où est-ce qu'on est ? On est dans une chambre d'hôpital. Donc, une chambre d'hôpital avec deux lits. Un éclairage jaune au-dessus des lits, le bruit des machines, comme on peut s'imaginer, répétitif, lancinant, des bips retentissent, deux patients dans la chambre. Le patient numéro 1, qui a environ 70 ans, qui est en position semi-assise sur son lit, perfusion dans le bras gauche. Le regard fixe et lointain, le visage figé, un teint un peu cireux. Et le patient numéro 2, qui est le patient qui va nous occuper, qui est appelé dans l'histoire Monsieur Brouillant, qui lui porte bien ses 80 ans. Il est en pyjama, attablé, dos à la fenêtre, côté court, perdu dans ses pensées, il lit un magazine. Il est robuste, il a l'œil vif. Lui, il a plutôt un air autoritaire, assuré, une belle prestance. Donc l'acte 1, on frappe à la porte. La porte s'ouvre et une femme d'une quarantaine d'années rentre, accompagnée de ses trois enfants, deux filles et un garçon. Il se dirige vers M. Bruyant, appelé comme ça parce qu'il fera beaucoup de bruit dans le service. et il dépose un paquet de gâteaux sur la table. Et M. Bruyon les dévisage, son regard semble exprimer du reproche. La femme dit « Bonjour papa, comment vas-tu ?»« Bonjour papy, en cœur, » disent les enfants. « Ah, enfin, vous êtes là, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Comment va maman ?»« Mais enfin papa, on est venu ce matin, » dit la femme. « Maman va bien, elle devrait encore être hospitalisée une semaine car sa sclérose en plaques ne facilite pas sa récupération par rapport à la fracture, tu comprends ?»« Mais enfin papa, tu te souviens que ce matin tu m'as téléphoné que j'ai déjà répondu à cette question ?» Ah bon, ah bon. Et un dialogue s'installe entre M. Bruyant et ses petits-enfants. On ne comprend pas très bien ce qu'ils disent. Ça ressemble un peu à un chuchotement. Et puis il y a l'autre patient dans la chambre qui fait un peu la voix off et puis qui dit « Ah, il est là depuis une semaine celui-là, mais effectivement, il oublie tout. Il a vraiment la mémoire qui flanche. » Bon, et puis M. Bruyant, donc notre patient, prend son portefeuille et puis parle avec ses petits-enfants. Il ouvre et il sort un billet vert, donc un billet d'argent pour chacun de ses petits-enfants. Puis l'autre patient qui dit « Ah, il a de l'argent celui-là, il est bien généreux avec eux, 100 euros à chacun. » On entend le bruitage du chariot repas qui arrive pour les repas, les couverts, les verres se bousculent, etc. Et la femme « On va te laisser, papa, il est bientôt l'heure du repas. »« Ah oui, il est temps, » dit le patient, « mais on n'a pas encore eu le petit déjeuner, en effet. » Donc la femme et ses enfants se lèvent, et avant de quitter la chambre, la femme s'empare discrètement du portefeuille de son père et y prend un billet d'argent. Ils embrassent le patient et tous quittent la chambre. Une infirmière entre. « Bonjour messieurs, voici votre repas. » Elle dépose le plateau repas au patient numéro 1. Et puis elle se tourne vers le patient numéro 2, M. Bruyant. Elle constate qu'il est fébrile. Il semble chercher quelque chose. Il regarde sous son magazine, se dirige vers sa table de nuit, ouvre le tiroir, la porte de la table de nuit, etc. L'infirmière ressort. M. Bruyant prend son portefeuille, il l'ouvre, il le referme, il regarde par terre autour de lui. Puis l'infirmière revient avec le second plateau. Et elle se dirige vers la table. Le patient. Vous m'avez volé de l'argent. L'infirmière s'arrête interloquée, stupéfaite. Elle est surprise de cette interpellation. Vous m'avez volé de l'argent. Mais de quoi parlez-vous, monsieur? Je veux porter plainte. Vous avez bien vu que je ne vous ai pas volé de l'argent. Et le patient n'est pas bien. Mais j'ai donné de l'argent à mes petits-enfants. Ils devraient encore m'en rester. Je n'ai pas tout donné. C'est vous qui me l'avez volé. L'infirmière est un petit peu désemparée. Elle sort précipitamment de la chambre et le patient marmonne, il rumine. Continue à chercher sous son lit, etc. Il tape son poing sur la table de chevet, il s'énerve. Et l'infirmière revient, un téléphone en main. Je viens d'appeler votre fille, dit l'infirmière. Je lui ai dit que vous m'accusiez d'avoir volé votre argent. Elle veut vous parler. Silence, pendant que la fille parle à son père. On ne sait pas très bien ce qu'il se dit. L'infirmière attend, l'air un peu scandalisé. L'infirmière m'a volé de l'argent, dit le patient. Il s'énerve, il s'agite, il bouscule le mobilier, il râle. Elle m'a volé de l'argent, je veux partir d'ici. Je suis ici pour me soigner et pas pour me faire voler. Silence, on ne sait pas ce que la fille dit à son père. Et puis le patient raccroche brutalement le téléphone, il le dépose sur le lit, se dirige vers le placard. Il sort quelques vêtements qu'il jette sur son lit, il s'habille. Toujours en marmonnant entre ses dents que l'infirmière lui a volé de l'argent. L'infirmière reprend le téléphone et elle quitte les lieux dépitée. Elle semble désespérée. Voici l'acte 2. Fin de la journée, la salle de repos, il est 18h, les infirmières sont assises pour faire la réunion avec le médecin qui fait le tour du service le soir, comme ça se passe souvent. Une table, quelques chaises, une armoire. Une horloge indique l'heure. L'infirmière qui prend la parole. Monsieur Bruyant a un sérieux problème, il est confus et agité. De plus, il est persuadé que je lui ai volé de l'argent, il veut partir et porter plainte pour vol. Le médecin. Mais vous savez bien que M. Bruyant a fait un AVC sylvien gauche profond confirmé par l'IRM, la résonance magnétique. Il présente des troubles de la mémoire immédiate. Il ne fixe plus les événements récents. Mais n'oubliez pas qu'il doit recevoir son anticoagulant. Son cœur est défaillant, il est en fibrillation auriculaire. S'il ne reçoit pas, le risque de récidive est trop important. Il doit recevoir son injection. L'infirmière, mais oui, mais il refuse tout, il ne veut rien entendre, il veut rentrer chez lui, c'est une idée fixe. Il est en colère. Mon collègue peut vous le confirmer. Ce que le collègue confirme. Je ne suis plus à l'aise face à lui, il fait vraiment peur, docteur, vous devriez le voir. En tout cas, pour le moment, je ne suis pas prête à me retrouver face à lui pour quoi que ce soit. Le médecin, d'accord, j'entends bien. J'appelle le psychiatre. Salut Yves, tu vas bien? Dis, j'ai une situation particulière. Un accident vasculaire cérébral sylvien gauche confus qui veut rentrer à la maison contre avis médical. Il est en fibrillation auriculaire, il refuse d'être anticoagulé. En plus, il est très agressif, il est assez costaud. Non, mes infirmières ont peur de lui.
Une ou deux ampoules, ok.
On va lui en donner une alors. Le médecin raccroche, il se tourne vers les deux infirmières. Donc, vous allez le piquer, vous préparez l'injection et vous appelez du renfort. Je rentre à la maison, s'il y a des soucis, vous m'appelez. Et le médecin sort avec un geste de désinvolture. L'infirmière, toute penaude, prépare fébrilement l'injection pendant que l'autre infirmière prend le téléphone. Allô, la psychiatrie ? On a besoin de renfort pour injecter un calmant à un de nos patients agités et agressifs. Est-ce que vous pouvez descendre ? Voilà un petit peu comment les événements se déroulent. L'acte 3, la chambre. Donc on revient dans la chambre. Le patient 1, lui, entre-temps, il est dans son lit, le regard toujours aussi vague. Et notre patient, lui, est habillé, installé à table. Il relit son magazine, nerveusement. Et puis, brusquement, les infirmières débarquent. Les infirmières 1, 2 et du renfort, les infirmières 3 et 4. « Bonsoir, monsieur Bruyant, que se passe-t-il ? Une infirmière m'a volé de l'argent, je ne veux plus rester ici, je veux rentrer chez moi. » Et à ce moment-là, un cinquième infirmier entre dans la chambre, il se tient en retrait et observe. « Ce soir, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer à la maison, » dit l'infirmière numéro 3. « Il est important pour vous de recevoir votre injection d'anticoagulant. C'est pour votre bien. S'il le faut, vous l'aurez par la force. » Et le ton monte. « Mais enfin, je ne suis quand même pas en prison ici. J'ai le droit de refuser l'injection. Je partirai puisque je le veux. De plus, c'est quoi cette injection ? Je ne l'ai jamais reçue. » « Non, vous ne pouvez pas partir. Ici, c'est le médecin qui décide et non le patient. Alors, vous l'acceptez ou pas, cette injection ?»« Quoi ? Je refuse. » Et il reprend nerveusement son magazine, il se plonge dans la lecture et il ignore complètement les infirmières. « L'infirmière 3, qu'est-ce qu'on fait ? » dit-elle à ses collègues. « Il doit absolument recevoir l'injection d'anticoagulant. On le risque de refaire un AVC trop important. En plus, la nuit arrive, donc on doit y aller. » Et toutes les infirmières, plus l'infirmier de nuit, se dirigent vers le patient. « Venez, monsieur Bruyant, installez-vous dans votre lit, vous y serez mieux. »« D'accord, mais comme promis, je n'aurai pas de piqûre, je ne veux pas d'injection. » Et il referme le magazine, il retire ses pantoufles, il se couche sur le lit. Les infirmières 3 et 4 immobilisent ses bras, l'infirmier 5 tient ses jambes, l'infirmière 2 arrive avec les injections. Or, le patient se débat et essaye de se libérer. L'infirmière 2 réalise les injections. Personne ne parle. « C'est du beau, » dit le patient, « je parie que vous m'avez injecté quelque chose pour me faire dormir. » Et les infirmières, tout en cœur, « Non !» Et l'infirmier, « Oui, monsieur Bruyant, on vous a donné un médicament pour votre cœur et un autre pour vous calmer. » Et les infirmières et l'infirmier sortent de la chambre. Alors, c'est bientôt terminé, l'acte 4. On est dans la chambre à nuit, l'éclairage est tamisé. Le patient, lui, dort et notre patient, lui, est paisiblement installé dans son lit. Le tracé du monitoring indique un rythme cardiaque irrégulier. Il se montre pensif, calme, mais il a les yeux grands ouverts. L'infirmier entre dans la chambre. Monsieur Bruyant tourne la tête vers lui et le regarde longuement. « C'est inévitable maintenant, je vais dormir, tout ça à cause de vous. »« Eh bien, » dit l'infirmier, « le but du médicament, c'est de vous calmer. Mais si vous luttez pour ne pas dormir, vous ne dormirez pas. »« J'ai peur, » dit le patient. « Vous savez bien, mon épouse ne va pas bien. Elle a la sclérose en plaques, elle a besoin de moi. Je veux rentrer à la maison. » « Allons, monsieur, une telle décision ne se prend pas la nuit. Demain matin, vous en discuterez avec le médecin. Je comprends que vous soyez inquiet pour votre femme et qu'elle ait besoin de vous. Mais vous, vous êtes ici parce que vous avez des pertes de mémoire suite à votre AVC. La preuve, regardez votre ventre. Il y a beaucoup de traces d'injections. Vous recevez une injection d'anticoagulant 2 fois par jour depuis votre admission à l'hôpital. Toutes ces injections laissent des marques et vous ne vous en souvenez pas. Regardez. » Le patient regarde son ventre et laisse paraître un grand désarroi. La situation est très difficile, dit l'infirmier, mais elle pourrait être pire. Regardez le monitoring. Votre cœur ne bat pas correctement. L'injection d'anticoagulant sert à ce qu'un caillot ne se reforme pas. Imaginez que vous rentriez à la maison sans votre injection et que vous refassiez un AVC. Ah non, mais non, je vais bien, dit le patient. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, dit l'infirmier, mais quand vous êtes arrivé, c'est un patient qui avait transité par les urgences. Vous ne saviez plus marcher et tout votre côté droit était paralysé. Cette paralysie aurait pu être permanente. Et si vous refaites un AVC, vous pourriez vous retrouver avec des séquelles encore plus graves. Comment est-ce que vous pourriez alors vous occuper de votre épouse ? Et le patient regarde l'infirmier. C'est grave ce que j'ai ? Long silence, les hommes se regardent. L'infirmier prend la main du patient. Oui, sans doute. Monsieur Bruyant, je ne peux plus rester auprès de vous, mais je repasserai plus tard. À bientôt. Et l'infirmier sort après avoir jeté un bref regard à le patient qui dort. Monsieur Bruyant garde les yeux ouverts, il regarde le plafond, ferme les yeux, se tourne sur le côté, ramène la couverture sur lui. Et les lumières s'éteignent. Et on entend l'infirmier 5, une voix qui se veut neutre, qui dit « Deux jours plus tard, M. Gobillon sort définitivement de l'hôpital. Il rentre à domicile. La relation entre le patient et le personnel de l'unité est devenue très difficile, voire impossible. La fin de l'hospitalisation a été décidée par les médecins. » Voilà, voilà la fin de cette petite vignette clinique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent réagir ou pas, ou intervenir ? Encore une fois, il y a certaines choses qui sont certainement caricaturales, c'est fait exprès. Cela dit, c'est pas si éloigné des réalités qu'on peut parfois observer, que vous observerez peut-être dans certains de vos stages, des situations qui vous plairont, d'autres qui vous dérouteront, d'autres encore qui vous interpelleront, des situations où vous aurez peut-être l'impression que les soignants sont plus dans des actes de soins que dans le soin lui-même. Quoi qu'il en soit, voilà, s'il y a des réflexions, n'hésitez pas à lever la main. Ce qu'on peut observer, en tout cas dans cette histoire, c'est que ça dépend un petit peu d'où on place notre regard. Mais si on place notre regard du point de vue du patient, mais quelque part, on remarque qu'aucun soignant n'a cherché à comprendre les propos du patient sur le vol d'argent, par exemple, et n'a porté crédit, c'est le cas de dire, à ses dires. Donc le patient, il soupçonne qu'on lui a donné quelque chose pour le faire dormir, et il a raison. Et finalement, seul l'infirmier de nuit lui répond que c'est le cas. Donc le patient commence à se sentir écouté et on voit que c'est à partir de ce moment-là où il lui confie toute sa peine concernant son épouse. Maintenant, si on place notre regard du point de vue de l'infirmière qui, elle, est accusée de vol, ben, quelque part, on voit qu'elle ne comprend pas l'attitude du patient et qu'elle développe très vite de l'angoisse face à celui-ci. Mais sans chercher à le comprendre. Et donc, directement, avec quatre collègues, elle revient dans la chambre et tous formulent en fait un mensonge pour forcer le patient à s'allonger. Si on place notre regard du point de vue de l'infirmier de nuit, mais finalement, c'est le seul qui essaye un peu de comprendre, mais il ne reparle pas de l'épisode du vol. Et si on place notre regard du point de vue du médecin, ben, on voit qu'il y a toute une cascade dans la communication, c'est-à-dire qu'il apprend la situation par la bouche de l'infirmière, mais qui ne voit pas le patient, il ne va pas le voir. Et puis que la peur de l'infirmière, son refus d'être confronté au patient seul, et en plus le problème médical de l'AVC, détermine le médecin directement à appeler le psychiatre. Et le psychiatre, sans le visiter non plus, préconise l'injection d'un calmant, sans l'avoir vu, sans avoir évalué son angoisse, son anxiété, et son état qui est tout de suite qualifié d'état d'agitation et de confusion. Donc on voit que le médecin prescrit le traitement, il recommande aux infirmières de se faire aider par du renfort et qu'il rentre chez lui. Donc finalement, aucun médecin n'a cherché à comprendre l'origine et la cause de l'attitude du patient. On a tout de suite attribué ça au fait qu'il était confus et qu'il était agité. On va y revenir dans quelques minutes quand on parlera des causes. Donc finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire, je vais y revenir dans deux minutes. Mais on voit que ces dernières années, la psychologie et les neurosciences ont identifié des causes, des conséquences et aussi des mécanismes neuronaux qui sous-tendent en fait la déshumanisation. Et que ce n'est pas juste une histoire clinique où on raconte des choses, il y a réellement des raisons pour lesquelles les gens agissent d'une façon ou d'une autre. Alors, Sultan Haack et Adam White sont des personnes aux États-Unis qui ont réfléchi sur le phénomène et qui proposent 6 causes, en tout cas, au phénomène de déshumanisation en les classant en 2 classes. Donc il y aurait les causes non fonctionnelles et les causes fonctionnelles. J'entends par causes non fonctionnelles les causes qui n'ont pas de fonction, c'est du français, mais donc qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de sens, qui ne servent à rien. Donc c'est des choses qu'on constate, des choses qui se passent, mais voilà, on remarque que c'est pas nécessaire, ça n'a pas de réel but, mais voilà, on constate que souvent c'est ce qui se passe. Tandis que les causes fonctionnelles, ben on va voir qu'en fait, mais ce sera dans la partie risque et puis dans la partie comment y remédier, donc ce sera pour la deuxième partie du cours en décembre, qu'on verra que ça peut parfois servir à quelque chose, donc ça peut parfois avoir une fonction. Alors, dans les causes non fonctionnelles, donc on aurait les pratiques des aires individualisantes, l'altération de l'agence dont j'ai parlé, et les dissonances médecin-patient. Dans les causes fonctionnelles, la mécanisation, la diminution de l'empathie et le désengagement moral. Alors, qu'entend-on dans les pratiques désindividualisantes? Par exemple, le fait que les groupes de médecins et les groupes de patients portent quelque part un uniforme qui distingue le groupe d'appartenance. Donc ça crée quelque part aussi un certain anonymat chez l'individu. Et en tout cas, le fait de constater qu'il y a ça, ça dépouille d'une manière subtile une forme d'individualité. Ça peut aussi participer dans certains systèmes à diffuser les responsabilités. Et on remarque que le phénomène de déshumanisation est amplifié souvent quand il s'agit de minorités raciales. Donc quelque part, le mécanisme qui sous-tend ça serait que les membres des minorités raciales seraient vus à ce moment-là comme appartenant à un groupe homogène, mais à une minorité, mais comme des membres désindividualisés d'une minorité, et pas comme des personnes individuelles. Ce serait vu comme des groupes externes. On remarque aussi que le phénomène de déshumanisation est amplifié quand les médecins sont amenés, par exemple, à prendre des décisions à propos d'un groupe de patients et pas pour des patients individuels. Donc ça, bon, voilà. C'est assez intuitif, mais c'est bien de pouvoir le nommer. Alors, dans cette grande cause de pratiques désindividualisantes, il y a certainement autre chose qui entre en jeu aussi, qui est le problème de la temporalité des soignants et des soignées. Donc là, on le voit très bien dans l'histoire clinique que je viens de raconter, pas la première histoire, mais la deuxième, où finalement, ben, on voit que ça peut en tout cas expliquer aussi les phénomènes. C'est-à-dire que, du point de vue du patient, ben, finalement, comme on voit dans notre histoire, le patient, là, il peut se sentir un peu prisonnier de l'hôpital. Non, il est dans un lieu qui peut paraître peu accueillant, dans lequel il y a du bruit jour et nuit. La lumière du monitoring va lui rappeler à chaque instant que son corps a failli, alors qu'il n'avait jamais montré de signe de faiblesse avant. Donc c'est une situation où il se sent totalement impuissant. Et en plus, le soir, ça peut être le moment où toutes les angoisses ressurgissent. Par contre, pour les soignants, bah pour certains, c'est la fin d'une journée qui a été bien remplie. Ils ont juste envie de rentrer chez eux. Et donc certains auront du mal à comprendre l'impatience de M. Bruyant. Il n'est jamais là que depuis 4 jours. De quoi est-ce qu'il se plaint? Certains sont là depuis des semaines. Mais bon, se rend compte que quand la mort peut surgir à tout instant, une telle durée peut paraître interminable. Et donc, on ne peut pas généraliser comment chacun peut tolérer le temps de l'hospitalisation. Donc, on en revient à cette notion de subjectivité dont je parlais au début. Et donc, ne pas réduire l'individu à sa pathologie, en tout cas, peut permettre d'éviter de tomber dans une déshumanisation trop rapide. Comme deuxième cause, ben, il y a le fait que, à cause de la maladie, les capacités d'agency des patients sont souvent diminuées. Donc, la capacité à planifier, à penser, à agir, à faire des choix. Forcément, ils sont malades, donc ils ont des capacités un peu réduites à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a des visites à l'hôpital. Et donc, se focaliser sur ces incapacités peut augmenter, en tout cas, la déshumanisation. Il y a autre chose qui sous-tend aussi cette cause, qui est quelque part le fait que, souvent dans la manière de procéder en médecine, il y a ce qu'on appelle l'attitude normative, qui peut expliquer un petit peu aussi cette cause-là. C'est-à-dire que, quelque part dans l'histoire que je vous ai racontée, toutes les décisions qu'on prend pour M. Bruyant, elles semblent logiques en soi. Elles semblent suivre un protocole, qui est le protocole logique pour la prise en charge d'un accident vasculaire cérébral. Il y a un risque de former un caillot, donc on lui injecte un anticoagulant, etc. Son cœur est en fibrillation ventriculaire. C'est à ce moment-là qu'il commence à s'énerver, à désirer partir. Donc, quelque part, l'amalgame est vite fait. Mais voilà, on a l'impression que le personnel autour de lui semble avoir moins considéré l'homme que son cœur. Voilà, le psychiatre est appelé et il a logiquement prévu un protocole d'injection de calmant et de contention. Donc toutes ces décisions en soi semblent logiques, mais comment est-ce qu'on ne peut pas constater quelque part la rigidité du protocole qui assimile les soignants plutôt à des possibilités d'action? Donc on voit dans l'histoire que les soignants n'ont pas pris le temps d'observer la situation avec du recul pour envisager d'autres possibilités. Et donc ce type de protocole, ben, ça conduit d'abord à être dans l'action et pas dans la réflexion, et une action qui en plus doit être réalisée au plus vite. Donc l'attitude normative, c'est le fait, ben, quelque part, de suivre un protocole et de tomber dans ce travers-là en oubliant la dimension relationnelle. Alors, comme troisième cause non fonctionnelle, ben, y a ce fait qu'on constate qui est effectivement la dissemblance médecin-patient, qui fait que ben, forcément le malade est malade, le médecin n'est pas malade, en tout cas dans la caricature. Donc ça crée déjà une différence liée à la maladie. Vous avez peut-être des cours sur la relation médecin-malade, vous allez en avoir. Donc, par leur nature d'être malade, ben, évidemment les patients se distinguent déjà du médecin. Et donc, on peut vite tomber dans le travers de l'étiquette de maladie et pas de malade. Et si on assimile le malade à la maladie, ben quelque part, ça impliquerait qu'il soit devenu la maladie. Et donc, ça, il faut faire attention. Le troisième point est celui des asymétries de pouvoir. Et là, il y aurait beaucoup à dire par rapport à ça. C'est-à-dire que, par définition, la relation médecin-malade est une relation d'asymétrie de pouvoir. Puisque le patient est souvent ignorant sur sa maladie. Même si le patient est un médecin, ben, il n'est parfois pas mis au courant des enjeux parce qu'il est malade. Donc voilà, il y a une asymétrie de pouvoir en tant que telle. Maintenant, en tant que telle, en soi, c'est juste un fait qu'on constate. Mais le danger est de tomber dans un jeu de pouvoir. Ou à ce moment-là, quelque part, il y a un glissement à ce moment-là. Et ça, on y reviendra, mais dans la partie où je parle des risques du phénomène. Donc on n'en parlerait pas ici. Maintenant, si on veut faire un petit parallèle par rapport à la vignette clinique, ben, voilà, le pouvoir, quelque part, est fondé sur le savoir que le soignant détient face au patient qui lui est ignorant. Et dans la vignette, ben, M. Bruyant a été, quelque part, jugé irresponsable de ses actes. Alors qu'en fait, si on observe objectivement la scène, la façon dont il a agi, dont il a raisonné les événements, alors qu'il s'inquiétait de revoir sa femme, mais son comportement n'était pas dénué de sens, finalement. On lui vole de l'argent, il se demande où passer l'argent. En soi, ce n'était pas dénué de sens. Et donc, voilà. À la fin de l'histoire, on a l'impression que les soignants considèrent le patient comme de plus en plus exigeant et que de son côté, le patient, lui, se sent de plus en plus incompris. Et donc, pour qu'une vraie rencontre ait lieu, ben, il aurait peut-être fallu, en tout cas, c'est une réflexion qu'on peut avoir, qu'une des parties sorte de son cadre de référence pour aller à la rencontre de l'autre. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur la vignette. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des situations cliniques où certains patients abusent aussi de cette position de régression dans laquelle la maladie peut mettre le patient, etc., etc. Et donc, des situations où la vapeur est renversée. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Mais si on examine vraiment la vignette clinique avec les causes que je viens d'aborder, ben, voilà un petit peu les réflexions qu'on pourrait se faire par rapport à cette vignette clinique-là. Voilà, tout ça sera beaucoup plus compréhensible quand on passera aussi au point 4 et 5. Alors, si maintenant on va vers les causes vers les causes fonctionnelles, hein, si on reprend le tableau, vers les causes fonctionnelles, donc il y aurait la mécanisation, la diminution de l'empathie et le désengagement moral. Donc, ce seraient des causes qui auraient quelque part un sens, qui pourraient être nécessaires en tout cas à certains moments. Mais ça, je rappellerai ça quand je conclurai tout à la fin. Alors, la mécanisation, ben, évidemment, en médecine, c'est des choses qui sont liées aussi de manière inhérente à la profession médicale. C'est-à-dire que pour poser un diagnostic et envisager un traitement, ben, on est obligé de décomposer l'être humain en système, en sous-système. Donc c'est inhérent à la profession médicale. Maintenant, c'est pas parce qu'on objectifie la maladie qu'on chosifie le patient, qu'on doit chosifier le patient. Donc là encore, il y a un glissement qui peut opérer. C'est pour ça que la mécanisation, c'est un fait, mais il faut voir dans quelle limite tout ça est pratiqué. Parce que si on tombe dans la chosification, bah forcément, on considère, comme je l'ai dit dans une des premières vignettes, on tombe dans l'instrumentalisation, dans le fait que l'autre est vu comme incapable de réactivité émotionnelle. Donc, voilà. Connecter la physiopathologie au résultat, bah, ça passe parfois par un niveau d'abstraction obligé, mais qui ne tient pas compte des états mentaux du patient. Alors, intervient là-dedans, dans la mécanisation, ben, tout ce qu'on appelle évidemment l'itinéraire clinique. Donc c'est un petit peu cette histoire de protocole dont j'ai parlé. C'est que, voilà, dans la société actuelle, ben, tout semble de plus en plus planifié et qu'à l'hôpital, ben, on parle d'itinéraire clinique, de chemin clinique. Voilà, le patient, il est pris d'un malaise chez lui, il va aux urgences, on pose un diagnostic. Puis à partir de ce moment, il a toutes les chances de perdre son identité, de devenir l'AVC, donc l'accident vasculaire cérébral, J0, jour 0. Puis une fois le diagnostic posé, il y a une série d'examens, puis une cascade infernale de protocoles, etc., etc., etc. Et donc on peut tomber dans une technicité excessive qui enlève toute spontanéité d'adapter les soins de santé. Après l'AVC jour 0 va devenir l'AVC jour plus 1, etc., etc. Donc bien sûr, le chemin clinique permet qu'on explore le patient sous toutes ses coutures, mais le risque de déshumanisation demeure important. Si on voit que les soignants agissent comme des ouvriers à la chaîne d'une usine, ce qui n'est pas le but. Voilà, donc retenir en tout cas, c'est ça qui est important, que les soignants seront toujours confrontés à une subjectivité et une imprévisibilité dans toute situation clinique. Donc, chaque situation clinique reste singulière, reste individuelle et reste unique. Alors, la diminution de l'empathie, ça, c'est certainement quelque chose dont on va vous parler, vous reparler, la dimension de l'empathie, etc., etc. Je vais prendre une petite diapositive pour redéfinir ce que c'est l'empathie. Par rapport à la sympathie, c'est souvent des notions qu'on confond, qu'on n'arrive pas très très bien à appréhender. L'empathie, c'est vraiment ce qu'on parle dans notre profession. Donc c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, mais sans nécessairement éprouver ses émotions. C'est-à-dire que oui, on ressent ce que l'autre ressent, mais un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'on ressent ce que l'autre ressent, mais pas par identification. On ne se met pas complètement à sa place, sinon on tombe dans la sympathie. On peut se mettre à sa place, mais si on souffre comme lui, de manière identique à lui, on coule avec lui. Donc l'empathie, c'est cette capacité d'avoir une juste distance émotionnelle. La sympathie, à contrario, c'est éprouver les émotions de l'autre sans nécessairement se mettre à sa place. C'est-à-dire que c'est un processus qui fait appel à d'autres mécanismes émotionnels, d'autres mécanismes cérébraux, où c'est vraiment l'identification. Ce serait plus dans une relation d'amitié, par exemple, la sympathie. Tandis que l'empathie, c'est vraiment ce qu'il faut acquérir dans la profession médicale pour ne pas s'écrouler avec son patient et pour ne pas être submergé par la souffrance émotionnelle de son patient. Quel que soit le métier, en psychiatrie, c'est certainement extrêmement valable. Donc, voilà, Serge Tisseron redéfinit quatre dimensions à l'empathie. Donc, ressentir les émotions d'autrui, mais comme je viens de le dire, en se mettant à sa place et pas par identification. Il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion avec la sympathie. Toute cette petite ligne-là peut parfois vous créer des confusions. Alors, l'empathie nécessite de pouvoir avoir une représentation des contenus mentaux de l'autre, ce qui fait appel à une capacité cognitive très, très identifiable, qui est la théorie de l'esprit, Theory of Mind, T-O-M, je vais en parler tout de suite. C'est aussi la tendance à pouvoir se transposer en imagination dans différents personnages réels ou fictifs. Donc, c'est vraiment, l'empathie sollicite ces mécanismes-là. Et c'est le fait que se préoccuper de l'autre, ça mobilise des comportements d'entraide. Donc, cette petite bande dessinée illustre vraiment ce que c'est la théorie de l'esprit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous reverrez peut-être au cours de vos études. Donc, en plus, c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'on demande à un petit enfant de regarder la scène. Donc, il y a deux petites filles. Celle de gauche s'appelle Sally, celle de droite s'appelle Anne. On voit que Sally va mettre une balle dans un panier. Jusque-là, tout va bien. Et puis, Sally quitte la pièce. Anne reste dans la pièce. Et pendant que Sally est dehors, Anne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge la balle du panier vers la boîte. Et donc, Sally, elle n'est pas là. Elle ne sait pas que Anne fait ça. Et puis, Sally revient. Et on demande à l'enfant qui a regardé la scène, on demande au petit enfant, où penses-tu que Sally va chercher sa balle? Alors, si l'enfant a acquis la théorie de l'esprit, qu'est-ce que l'enfant, selon vous, va répondre? C'est assez logique, mais ça peut prêter à confusion. Il ne faut pas réfléchir trop loin. C'est assez simple. Quelqu'un a une idée? En gros, la réponse, c'est quoi? C'est que si l'enfant a bien acquis la théorie de l'esprit, et les études disent que c'est vers l'âge de 3-4 ans, il dira, Sally, elle va chercher sa balle dans le panier, parce que c'est là où elle l'a laissée, et qu'elle n'est pas censée savoir que Anne l'a déplacée. Mais si l'enfant n'a pas acquis la théorie de l'esprit, il va dire que Sally va chercher la balle dans la boîte, parce que lui, il va suivre juste les petites étapes de la bande dessinée, donc il va se dire, il va pas pouvoir se représenter les contenus mentaux de sa vie. Voilà. Donc notamment la théorie de l'esprit, c'est ce qui a été incriminé entre autres dans certaines formes d'autisme. Voilà. Donc c'est un mécanisme qui intervient beaucoup dans l'empathie, puisque l'empathie nécessite de pouvoir se représenter les contenus mentaux de l'autre. Donc dans tout ce qui est cognition sociale de manière large, ça intervient beaucoup. Alors par rapport à cette notion d'empathie, on constate, les études constatent, donc c'est connu, que dans la profession médicale, il y a une sous-estimation de la douleur par les soignants, de manière générale. La douleur physique, je parle beaucoup. Douleur psychique aussi, mais c'est beaucoup plus difficilement mesurable. Donc sous-estimation de la douleur par les soignants, quel que soit le soignant, quel que soit le contexte, et que quelque part, si on fait passer des scores de douleur à des patients et à des médecins, ben, on voit parfois vraiment des disparités dans les scores. C'est encore plus vrai pour les douleurs chroniques, parce que la douleur chronique, ça échappe un peu à la conception intuitive qu'on peut se faire de la douleur. C'est-à-dire que les gens ont du mal à s'imaginer qu'on puisse avoir très mal pendant très longtemps. On a généralement une conception de la douleur qui est associée à une lésion objectivable, identifiable, et on considère la douleur comme un chapitre un peu de l'histoire sensorielle. Mais pour la douleur chronique, en tout cas, on voit que c'est difficile. Et donc, par exemple, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Dans les années 80, par exemple, à la Johns Hopkins University, ils ont fait une étude où ils ont essayé d'évaluer le taux de concordance entre l'estimation de la douleur par le patient et l'estimation de la douleur par le soignant. Donc, voir... On demande au patient de scorer sa douleur et on demande au médecin de dire ce qu'il croit, à quel niveau est-ce que le médecin pense que le patient a mal. Et en fait, on voit des choses assez appelantes, que plus sa douleur est forte, plus le taux de concordance est faible. Donc, par exemple, la douleur est faible, donc le patient juge qu'il n'a pas très mal, le médecin va être bien en accord avec lui, il y aura un taux de concordance de 80%. Si le patient se juge avoir une douleur moyenne, le taux de concordance est de 50%. Mais si la douleur est forte, alors le taux de concordance tombe à 13%. Donc c'est vraiment quelque part affolant, mais donc on constate ça. Et on voit que c'est plus manifeste, qu'il y a un lien avec l'âge du patient. Donc c'est beaucoup plus vrai pour les enfants et pour les vieillards. Donc si le patient est un jeune bébé ou est un vieillard, le médecin va avoir vraiment... de plus en plus difficile à bien évaluer la douleur que ressent le patient. Et donc, il y a des gens qui se sont demandé comment ça se fait, etc. Et alors, il y en a qui pensent que c'est parce que le médecin a du mal à s'identifier au bébé, et c'est du mal à s'identifier au vieillard. En tout cas, c'est plus difficile, donc c'est plus difficile de se représenter la douleur de l'autre. Et les données de recherche, de littérature, rapportent des choses assez invraisemblables, où ils disent que il a fallu attendre la fin des années 80, par exemple, pour que la douleur des nouveau-nés soit reconnue. C'est-à-dire que ce n'est que sur la base des chiffres de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang, du cortisol, qui est l'hormone libérée notamment dans le stress, et sur les chiffres de la tension artérielle, qu'on s'est rendu compte que les nouveau-nés pouvaient éprouver de la douleur et que les nouveau-nés souffraient. Et donc, évidemment, il y avait un tas d'arguments pour dire que les nouveau-nés ne savaient pas ressentir la douleur. Système nerveux trop mature pour pouvoir percevoir les stimuli douloureux, etc. Et donc, on pourrait dire que la communauté médicale a infligé des choses assez cruelles, mais c'est parce qu'elle ne savait pas, mais où on voyait des infirmières, par exemple, défaire des perfusions de morphine, etc. Et donc, alors, une fois que les données ont montré que les nouveau-nés pouvaient éprouver de la douleur, ça entraînait soit beaucoup de culpabilité chez les soignants, soit alors un déni, comme on en a parlé, et donc les gens continuent à faire comme avant. En tout cas, quoi qu'il en soit, toute cette réflexion sur les taux de concordance par rapport à la douleur, ça montre qu'il peut avoir un problème d'empathie, mais il peut avoir aussi d'autres raisons, comme le fait de ne pas bien savoir s'identifier à son patient, etc. Et donc, ça montre en tout cas qu'il y a ça. Il nous reste 4 minutes. Donc, ici... voilà, on voit que, en tout cas, depuis longtemps, les gens se questionnent sur ce phénomène. Avec César et Pavès, qui dit « la plus atroce offense qu'on puisse faire à un homme, c'est de nier qu'il souffre ». Et Friedman, en 2007, qui dit « c'était important pour comprendre quelqu'un, ce n'est pas nécessairement d'avoir eu son expérience, d'avoir vécu ce qu'il a vécu, mais c'est d'être capable d'imaginer ce que ça serait de l'avoir ou de le vivre. Donc c'est vraiment la question de l'empathie, de pouvoir se représenter les contenus mentaux de l'autre. Alors là, on a dans cette dia-là, on a une clé de compréhension de pourquoi est-ce que les soignants diminuent leur empathie, pourquoi l'empathie diminue au fur et à mesure des études de médecine, etc., etc. Ça vient certainement en partie de ça, qui est que forcément dans la profession médicale, le médecin est amené souvent quelque part à éprouver des émotions négatives, parce que c'est pas marrant de soigner des gens qui vont pas bien, et donc il doit réguler des émotions négatives, donc il cherche une manière de diminuer ses sentiments de déplaisir, et donc pour diminuer ses sentiments de déplaisir, il diminue son empathie, donc il est moins empathique tout simplement. Et grâce à ça, ça permet de libérer des ressources cognitives pour résoudre des problèmes. Donc il y a des bénéfices à ça. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des réseaux neuronaux, les réseaux neuronaux qui s'occupent de la cognition sociale, donc le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre, c'est pas la même chose que les réseaux neuronaux qui s'occupent de la résolution de problèmes purement non sociaux. Donc quand il y a beaucoup de charge dans un de ces réseaux neuronaux, ça empêche qu'il y ait de la charge dans l'autre réseau. Et donc diminuer les émotions, être moins empathique, ça permet de libérer des ressources pour que l'autre réseau fonctionne, qui est celui juste de la résolution de problèmes. Donc par exemple, le chirurgien va peut-être être plus empathique en cabinet de consultation, mais en salle d'op va peut-être diminuer son empathie, parce que s'il est en train de se rendre compte qu'il est en train d'opérer quelqu'un, etc., etc., il va peut-être plus trop être capable de couper ou d'enlever la tumeur ou quoi ou quoi. Donc il faut apprendre à shifter, donc il y a un bénéfice aussi cognitif à la déshumanisation, le fait de libérer des ressources cognitives pour résoudre des problèmes. Ça c'est en tout cas un phénomène d'un point de vue neuronal qui a toute son importance. Voilà la dernière dia pour aujourd'hui. Ben, la dernière cause qui est assez facile à comprendre, qui est le désengagement moral qu'on constate. Donc déshumaniser pour diminuer la culpabilité d'infliger de la douleur, ça peut être une autre clé de compréhension. Voir les autres comme incapables d'expérimenter pleinement la joie, la douleur, le désir, mais ça permet plus facilement d'oser, en tout cas infliger parfois de la douleur, si on pense aux anesthésistes ou quoi, sans entraîner un sentiment personnel chez le médecin de détresse. Donc ça peut être ce qu'on appelle un gros mécanisme de défense, cette déshumanisation. Voilà, pour aujourd'hui on va s'arrêter, et donc lorsque je vous exposerai la deuxième partie, on parlera des risques, j'ai exposé des exemples de l'actualité, et on essaiera de comprendre comment remédier à ce phénomène. Je vous remercie pour votre attention.